vous écoutez à l'abordage, c'est vendredi. Et vendredi, on a le plaisir de suivre nos globetrotteurs. On a différents groupes d'explorateurs qui sont en ce moment même en train de voyager autour du monde. Et c'est avec plaisir qu'on retrouve Anastasia et Sylvain Nicollier. On les a plus entendus depuis une année, mais c'est tout à fait normal parce qu'ils font plusieurs voyages, mais un voyage en particulier chaque année dans le cadre de leur projet Suisse-moi. Suisse-moi, c'est quoi? Eh bien, ils sont dans ce voyage et par les réseaux sociaux, on peut leur proposer des activités, leur lancer des défis. L'année passée, il y a un an, ils étaient à Madagascar et cette année, ils sont en Guadeloupe. Alors comme on est poli, on commence par leur demander comment c'est la météo, parce que c'est comme ça qu'on fait quand on demande à quelqu'un comment il va. Réalisation Luana Biadici.
Premier contrée, bien bonjour.
En Guadeloupe, en novembre, normalement, c'est déjà la saison plus ou moins sèche. Mais là, il y a eu des pluies exceptionnelles avant qu'on arrive. Ils ont eu 2 semaines de pluie presque sans interruption. Et du coup, il y avait une partie du territoire qui était un petit peu inondée. Les gens d'ici nous ont dit que c'était quasiment jamais arrivé. On a eu beaucoup de chance. Au moment où on est arrivé, il a commencé à refaire beau. La Guadeloupe est en train de sécher parce que les chemins dans la forêt, ils sont boueux, très très boueux. Ça glisse parce qu'il y a des montées, des descentes. Et du coup, ça commence à être de nouveau accessible à l'intérieur des terres.
Ça nous a fait très bizarre parce qu'en arrivant, il y a tout le monde qui se plaignait qu'il pleuvait. Et nous, on arrivait dans un paradis où il n'y a que du soleil. Il y a plein de jungle partout, la mer elle est toute bleue. Et eux, ils n'arrêtaient pas de nous dire « Ah non, mais c'est horrible, il fait très moche ici. » Et ouais. C'est vrai que depuis qu'on est arrivé, on a eu peut-être 2-3 pluies, mais de 5 minutes chaque fois. Donc franchement, là, pour l'instant, on a de la chance.
Les gens, ils se plaignent toujours aussi ici des bouchons. Alors c'est vrai que tous les jours il y a des bouchons parce que c'est une île, il y a une seule route presque qui fait le tour de l'île et du coup il n'y a aucune solution, il y a toujours la même chose, il y a une grande ville où tout le monde va bosser, où tout le monde revient, mais après c'est des bouchons de 15-20 minutes, maximum 45 minutes, donc c'est pas, on n'est pas à New York.
La Guadeloupe c'est en même temps de l'autre côté de l'océan Atlantique, mais en même temps c'est un territoire français, ça se ressent sur place ça?
Oui, alors bah, déjà tu vas trouver les mêmes supermarchés qu'en France. Bah, il y a la langue française, bien évidemment.
Moi, j'étais étonnée parce que c'est les euros ici. Et du coup, même les prix, c'est un peu les mêmes qu'en Suisse, donc c'est pas très dépaysant.
Tu croises toujours des gens avec 2 baguettes sous le bras, ça c'est aussi... Donc tous les endroits où les Français sont passés, ils ont laissé leurs baguettes.
Tous les dimanches matins, les samedis matins, partout.
Ouais. Et dans les supermarchés, tu retrouves tous les produits français. C'est un peu la honte, mais ici, 90% des produits sont importés. Même le poisson, 50% du poisson est importé alors qu'on est sur une île. Quand on est arrivé, première chose qu'on a fait dans le supermarché, on a essayé de rechercher que des produits guadeloupéens pour les goûter. Il y a peu de choses en fait. On a retrouvé des salades des Pays-Bas.
C'était l'échalote de l'Espagne, un truc comme ça.
Et au niveau des habitants, on arrive tout de suite à voir qui est français de la métropole, qui est guadeloupéen, qui vit sur l'île depuis longtemps.
C'est assez métissé. Je ne sais pas si ça se mélange beaucoup. Et puis ça dépend des îles. Il y a des îles aussi traditionnellement où il n'y avait que des Blancs, et, où ils sont restés entre Bretons. Et du coup, tu vois que le teint est différent. Mais c'est vrai qu'ici, il y a autant bah, des descendants d'Africains que des Français. Et puis après, tout le mix qui va entre les deux. Bah, les gars qui viennent de métropole, ils les appellent les métros. Des fois, ils nous disent « Ouais, on demande notre chemin. » Ils disent « Ouais, tu vas là-bas où il y a le métro. » Et puis nous, au début, on pensait, mais tiens, il y a un métro ici. Non, non, c'est les métros, c'est les gars de la métropole. Et après, les locaux, ils ont un français avec un accent où ils prononcent peu les R. Et puis après, eux-mêmes, ils ont leur dialecte qui est le créole. C'est pas un dialecte, c'est vraiment leur langue ouais, qui est le créole. Mais disons qu'ils ont un accent qui est bien prononcé, qui est super sympa.
À l'oreille, le créole ne ressemble pas du tout au français. Moi, en tout cas, je n'arrive pas à comprendre les mots.
Tu comprends un mot sur 5 ou un mot sur 10. Du coup, tu te fais ta petite histoire dans ta tête en essayant d'imaginer à quoi ils sont en train de parler, mais dans la réalité, tu ne comprends pas.
On voulait montrer une photo à famille et moi, pas à 6 côtés en main.
Ah ouais? Ben, vois ça.
Alors, Smi, là, qu'on s'assait en main, et ouai, c'est Tifray, tonton Albert.
Qu'est-ce qui crie Martinique? Qu'est-ce qui crie « Je ne suis pas en France »
Les paysages. Alors ce qui reste toujours très différent de la France et de toute l'Europe, Ici, en Caraïbes, c'est le paysage, c'est la mer qui a une couleur complètement irréelle, c'est la jungle qui est quand même assez impressionnante, même s'il n'y a pas beaucoup d'animaux dedans. C'est, voilà, après, tout ce qui est ville, c'est clair que c'est très, comment dire, européanisé, mais tout ce qui est la nature, c'est très, très Caraïbes.
C'est clair. Et après, justement, là, c'est intéressant de voir à quel point les cultures sont mélangées et à quel point les traditions en fait, de la Guadeloupe, c'est des anciennes traditions françaises qui ont été remises au bout du jour ou adaptées. Par exemple, ils dansent le quadrille, qui est de la danse par quatre, où ils tournent en se tenant les coudes. Et ça, c'est des traditions bretonnes. Ou alors, quand on demande aux gens quelle est une tradition guadeloupéenne, ils disent chanter Noël. Ils se rencontrent autour de plats, ouvert à tout le monde, et puis ils chantent des cantiques de Noël. Donc c'est drôle, ouais, c'est vraiment un mix de la culture française et des Antilles.
Il y a quoi comme odeur quand on est sur l'île de la Guadeloupe ?
Dans la jungle, ça sent toujours quelque chose. Il y a plein de plantes, il y a des plantes médicinales, il y a plein de fleurs partout, il y a des roses marbrées un peu qui tirent à la hauteur, il y a des trucs jaunes, blancs, rouges, oranges, c'est super beau. Après, ça, c'est un peu un mélange du coup d'odeurs, donc je pourrais pas dire quel est le plus présent. Comme à Madagascar, ça sentait toujours Ylang Ylang. Ici, il y a pas le parfum comme ça qui ressort, mais ça sent la jungle. Quoi.
Ouais, pour moi, dans la jungle, ça sent vraiment le végétaux humide. Mais quand on sort et on est en voiture, des fois, il y a beaucoup de plantations de canne à sucre. Et du coup, il y a une petite odeur sucrée que tu sens. Et tu sais, là, il y a soit une distillerie de rhum pas loin, ou simplement des champs de canne à sucre.
C'est ça, en fait, ça sent le planteur ici. Le mélange fruits-rhum, voilà, c'est ça qui
Ça sent le planteur, ça doit être la laine des gens, parce que ça boit pas mal de rhum. C'est vraiment, là aussi, une tradition de la Guadeloupe. Et puis, un fort produit qui est consommé.
Vous y êtes depuis 10 jours, vous avez fait quoi ?
On est arrivé au début en faisant du couchsurfing chez les gens, donc des gens qui te prêtent leur canapé. Et lui était traducteur des arbres, c'est comme ça qu'il se définit. Il est là pour être un intermédiaire entre les personnes qui n'ont aucune idée des besoins de la nature et des arbres et la nature. Et du coup, il nous a proposé une activité d'escalader les arbres. Donc on a passé 2 jours à escalader les arbres avec lui, c'était super sympa.
Il existe une formation de traducteur d'arbres. Peut-être ça s'appelle différemment pour la formation, mais c'est un peu le principe. Parce que l'idée, c'est de transmettre un peu plus de savoir sur les arbres aux gens qui aussi travaillent avec. Donc typiquement, pour l'élagage, il ne faut pas juste couper n'importe où, mais savoir exactement quelle branche dérange et laquelle veut plutôt voir la lumière que l'autre, un truc comme ça.
Ouais, puis aussi, ils travaillent justement pour élaguer les arbres. Et puis, souvent, des gens l'appellent. Ils disent, voilà, moi, j'ai un arbre, j'ai envie de le couper, j'ai envie de ceci et de ça. Et lui, il va voir quels sont les besoins du propriétaire, quels sont les besoins de l'arbre aussi et de la nature autour, de la végétation, puis proposer un peu une solution intermédiaire pour que autant la nature soit contente que le propriétaire. Puis on a passé les 3 derniers jours à visiter des îles autour, des petites îles qui sont des dépendances de la Guadeloupe.
Alors ça, c'était la réserve naturelle de Petite Terre. C'est un îlot assez grand, mais tout plat. Et ils ont fait une réserve. Et plein d'iguanes aussi, parce que du coup, ils sont vraiment en sécurité là-bas. Après, on a visité l'île qui s'appelle Marie-Galante. Tout le monde dit que c'est l'île la plus authentique de toute la Guadeloupe. C'est vrai, ça change de la grande terre où on est actuellement. C'est très rural, je dirais. Il y a plein de moulins partout, il y a plein de distilleries parce que c'était l'île qui était connue surtout pour la production de rhum, parce qu'il y a plein de canne à sucre là-bas. Et les plages sont aussi exceptionnelles. Et le grand coup de cœur pour nous, c'était l'île qui s'appelle Les Saintes. Enfin, c'est un mini-archipel de 6 îles, Les Saintes. Nous, on était sur la haute terre. Et ça, c'est assez génial. C'est vraiment. En tout cas, maintenant, hors saison, c'est excellent. Après, en vue de tous les hôtels qui sont sur l'île, les bars qui sont dans la zone piétonne, comme ils l'appellent, je pense que c'est assez blindé pendant les fêtes là.
Mais c'est une île qui a des couleurs incroyables. Le lagon, il est vraiment d'un bleu foncé. La végétation bien vert pétante. Et puis en fait, ça ressemble à un petit Rio de Janeiro, c'est-à-dire qu'il y a plein de petites collines autour qui sortent de l'eau, ça crée des reliefs qui sont magnifiques, et en tout cas pour les photos et tout, c'était incroyable.
C'est drôle parce que je trouvais que ça ressemblait pas mal à Cinque Terre, parce qu'il y a des maisons qui grimpent sur les collines, et du coup ça fait vraiment ces maisons qui, on dirait qu'elles tombent dans la mer, mais bleu comme, enfin je sais pas quoi. Ouais. Et moi, ça me fait penser à ça. Donc, du coup, il y a un peu un mélange de lieux les plus beaux lieux de la planète. Et du coup, ça fait vraiment un effet particulier, tel qu'on n'a même pas besoin de retoucher les photographies après. C'est l'architecture coloniale dans les villages, je dirais. C'est les maisons plates. Donc, c'est un étage principalement, mais large. Parce que du coup, ils doivent tout mettre sur cet un étage. Il y a toujours les grands vérandas qui font le tour de la maison. Et tu vois assez vite que la vie ici, elle se passe dehors parce qu'il fait trop chaud.
Ouais, c'est des vérandas qui ne sont pas vitrées. Hein. C'est vraiment pour laisser passer l'air. Et la plupart des maisons, elles n'ont même pas de vitres. Il y a tout qui est ouvert simplement pour laisser passer l'air, pour avoir un peu de fraîcheur. Et puis, tu vois des maisons de maîtres. C'est des maisons coloniales justement qui appartenaient à ceux qui possédaient des terrains, etc. Ou c'est des super maisons. Après, c'est clair, tu vois des maisons beaucoup plus simples, qui sont beaucoup moins jolies.
Très coloré par contre, ça j'adore. Il y a toutes les couleurs du monde. J'ai pas encore trouvé s'il y avait une signification particulière de ces couleurs, mais toutes les maisons elles sont peintes d'un vert fluo avec les volets roses ou bien jaune avec les volets bleus, mais c'est toujours deux couleurs différentes et très très vives. J'adore.
Disons que c'est une île qui vit du tourisme, c'est son activité principale. Il y a énormément de Français. Des fois, on nous dit ah, on va voir une réserve naturelle, une petite île. Puis en fait, on débarque, on apprend le jour même qu'on est sur quoi. On savait qu'on était sur un catamaran, mais on apprend le jour même qu'on est sur un catamaran. Il y a 50 personnes. Et disons qu'il y a 5-6 bateaux les mêmes qui arrivent sur cette mini-île. Et tu te retrouves à manger un pique-nique avec 2 sauzons de Français.
Et ça, c'est hors saison. Donc, ouais. J'imagine que ce sera à Noël. Donc non, tu vois qu'il y a un grand potentiel d'accueillir beaucoup de gens. Même maintenant, il y a des quarts de touristes qui se baladent de temps en temps, on les croise dans des lieux de fréquentation.
Ouais, puis là, comme hier, il y a un bateau de croisière qui est arrivé, mais les bateaux de croisière énormes, c'est un bâtiment sur l'eau. Ouais. Donc ça, je pense que ça doit faire des gros afflux de touristes.
Mais c'est grand ici, donc franchement, à part si tu te retrouves dans un mast-si de toute la Guadeloupe, évidemment il y a des gens, mais après il y a plein de coins où tu peux te perdre complètement. Hein. Alors, la pointe des châteaux, c'est justement un exemple de truc super touristique où tu te retrouves avec 50 quarts de touristes en même temps, mais que ça vaut vraiment la peine. Parce que c'est la pointe la plus à l'est de la Guadeloupe, qui donne du coup, sur l'océan Atlantique. Ça s'appelle la pointe des châteaux parce qu'il y a des petits rochers qui sont posés dans la mer comme des châteaux. Et du coup, il y a les vagues qui viennent se briser vers ces châteaux. Mais comme c'est les vagues de l'océan Atlantique, elles sont énormes. Donc ça fait des gicles dans tous les sens, le bruit impressionnant. Et toujours la couleur de cette eau qui est juste impossible à décrire. J'ai jamais vu l'eau de ce bleu aussi profond. Et t'as des plages d'un côté, des longues plages étendues où il n'y a personne. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a personne. De l'autre côté, c'est des falaises mais brutes, mais qui tombent dans l'eau à pic. Franchement, tu fais pas le malin pour les rapprocher. Et tout droit, tu vois l'île de Désirade qui est un peu au loin. Et tu te sens mais au bout du monde. Et c'est tellement magique. Et là, typiquement, même s'il y a des masses de touristes qui viennent, il y a toujours un coin où il n'y a personne. Et tu peux te poser, tu peux contempler ces vagues et cette mer et te rendre compte à quel point tu es petit dans ce monde sans qu'il n'y ait personne autour.
Et comme c'est touristique, moi j'ai pu manger en même temps, en appréciant tout ce spectacle-là, un sorbet coco qui était excellent.
Aussi, voilà, il y a des petits avantages.
Voilà, c'est ça.
Et justement, la gastronomie guadeloupéenne, on mange quoi?
Les fruits de mer. Ben, oh, les fruits de mer.
Les fruits de mer, les poissons, on est sur une île, donc on profite, on mange, on adore les produits de la mer, donc on en mange pas mal. C'est pas trop épicé.
C'est super pas épicé, ouais, moi j'étais étonnée.
Ouais. On a découvert une odeur ici, c'est le piment végétarien. Donc le piment végétarien, c'est un piment qui sent très fort le piment. Donc à chaque fois que tu mords dedans, tu vas croire que ça va brûler la bouche, ben, comme les piments qu'on connaît. Et en fait, non, c'est un piment qui a juste le goût fort de piment, mais qui n'est pas fort. Et du coup, c'était une découverte de la Guadeloupe. On adore en manger. Tu peux le manger cru directement sur les arbres, comme dans ton assiette. Et on a vraiment le réflexe de croquer dedans, dans notre assiette. On se dit, oh merde, ça va vraiment nous brûler la bouche. Et en fait, non, non, c'est juste un goût fort de piment.
Pépon Ottoman nous parle de bokit, c'est une sorte de kebab frit.
Ouais, sandwich frit.
Forcément au poisson, je crois, mais on n'a pas encore eu l'occasion de le goûter. On se rejouit.
Il y a le fameux boudin qu'on a goûté, mais on n'est pas fan.
Ah, ils mangent tous les akra ici. Akra, c'est des beignets, donc il y a plein de pâtes frites. Enfin, pâtes, comment on dit, enfin, je sais pas,
c'est ouais, une pâte
de pâtes. Et eux, ils disent que c'est les akra aux morues ou les akra aux légumes, mais je n'ai pas trouvé beaucoup de légumes dedans, c'est vraiment de la pâte. Et une fois j'ai goûté, je dis c'est bon, j'ai goûté, je ne vais plus jamais en manger. Mais non, chaque fois, ils te l'offrent parce qu'ils sont tellement fiers, chaque fois, ça vient comme apéritif.
Avec un petit rhum planteur qui te retourne la tête.
Aussi, ouais. Ouais. Combo.
Ouais. Bah, et dans notre, ouais, là, typiquement, on va vous quitter dans un instant pour aller visiter une distillerie. Donc, chaque fois, on fait ça le matin parce que les distilleries sont fermées l'après-midi. Mais quelle idée, du coup, d'aller faire des dégustations le matin avant d'aller manger.
Je précise que chez nous, il est 9h du matin.
Ouais.
Et on commence par une dégustation de rhum.
Ouais.
Vous l'avez dit, l'alcool est très présent sur l'île. L'alcool qui amène toutes sortes de problèmes. Vous l'avez constaté?
Écoute, je ne l'ai pas vu encore. Mais c'est sûr que ça doit être le cas. Vu que l'alcool est bon marché, qu'il est très fort, c'est clair, on sait tous, l'alcool, hein, c'est un gros problème partout dans le monde, au niveau de la violence, des accidents, de la santé. Je pense que pour ça, on aurait dû être peut-être dans des quartiers plus populaires, plus longtemps, pour vraiment voir comment ça se passe. Moi, j'ai des souvenirs assez violents au Brésil, notamment de gens dépendants d'alcool, mais là, on n'a pas vu.
Anastasia et Sylvain Nicolier, avec votre projet Suisse Moi, vous voyagez et puis vous relevez aussi des défis qu'on vous envoie via les réseaux sociaux. Cette année, vous êtes en Guadeloupe. Les autres années, vos précédents voyages avec Suisse Moi, vous étiez dans des endroits moins touristiques, comme par exemple l'Albanie. Là, c'est un endroit très touristique. Qu'est-ce que ça change?
Mais ce qui change, c'est toujours cette recherche d'authenticité, je dirais. On recherche des activités authentiques. Et puis quand on se rend compte que c'est dans la brochure de 50 agences touristiques, on est réticent et puis on se dit mais tiens, est-ce que c'est vraiment intéressant de le faire? Donc on gratte pour essayer de trouver des choses, pour trouver vraiment cette culture qui est à la base de la Guadeloupe. Et là on a trouvé certaines activités qu'on se réjouit de voir, comme par exemple samedi on va voir une course de bœufs. Donc en fait, ils chargent des bœufs un maximum dans des montées, puis c'est une course de bœufs tractés. C'est vraiment une activité traditionnelle qu'on a trouvée, puis on se réjouit d'aller la découvrir ce samedi.
Moi, je dirais aussi par rapport à d'autres pays qui sont plus aventuriers, comme tu dis, ça facilite pas mal les trajets, les déplacements. Ici, il y a même des bus de ligne qui font qui relient les principales villes. C'est facile de trouver un logement de tous les goûts. Il y a du couchsurfing, parce qu'à Madagascar on a trouvé 2-3 personnes qui faisaient ça, mais très peu par exemple. Donc des fois c'est pas mal aussi d'être dans les spots touristiques, au moins ça, tu te déplaces vachement plus vite.
Ouais, en mode touristique souvent il y a quand même plus de confort. Et puis là on se réjouit de voir la différence parce qu'on va aller en Dominique. Et la Dominique justement c'est réputée pour être une des îles les plus sauvages des Caraïbes. Donc on va voir ce que ça donne de voir les différences et puis ça va être intéressant.
Donc au final, la Guadeloupe, un succès?
Moi je trouve que oui. Et puis on avait une image des Guadeloupéens un petit peu raciste qu'on m'avait transmise avant de partir, que je trouve qu'il n'est pas du tout le cas. On m'avait dit, je pense, des Français qui m'avaient dit que la Guadeloupe était un peu raciste envers les Blancs. Mais en fait je me rends compte que dans n'importe quel pays où je vais, j'ai toujours des gens qui me disent de faire attention, qui me disent que c'est pas cool, qu'il y a des problèmes. Puis en fait, je trouve que c'est pas le cas. Ça m'arrivait en Corse, les gars me disaient « Ah, les Corses, tu verras, ils ont un sale caractère. » Je trouvais pas le cas du tout. Madagascar, on me disait « Attention, c'est dangereux. » C'était pas du tout le cas. Ici, on me dit « Attention, les gens sont racistes. » Non, moi, je trouve que c'est pas le cas.
Parcouille. Dans les mots de route, on a toujours gardé sa foi pour qu'elle haute. Pour déclarer bonne woman, nous pas faire conscient, pas qu'attendre. Mais orbiter un verre qui est entre point. Dans les mots de route, on a toujours gardé sa foi pour qu'elle haute.
Réalisation Luana Biadici. Un grand merci à Anastasia et Sylvain Nicolier. On va suivre leurs aventures, bien sûr, en Dominique et aux Caraïbes. Et si vous êtes impatient et voulez voir en avance ce qu'ils vivent, vous pouvez aller sur leur site suissemoi.com. Et puis, ils sont aussi sur à peu près l'intégralité de tous les réseaux sociaux possibles et inimaginables. On aura donc des nouvelles sur la suite de leurs aventures.